I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 25 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a quelques semaines, dans un épisode de La Loupe, on vous avait emmené faire un tour en anti-vaxi, en vous donnant des clés pour répondre aux détracteurs du vaccin contre le Covid. Aujourd'hui, on va vous plonger dans un pays voisin bien plus grand, l'Absurdie. Là-bas, on pense que les traînées blanches des avions dans le ciel sont des produits chimiques sciemment déversés sur la population. On est persuadé qu'Hillary Clinton est à la tête d'un réseau pédophile international, que ce sont les élites mondiales qui ont organisé la pandémie, et on consulte des horoscopes ou des astrologues pour prendre des décisions. Vous avez déjà tous croisé un habitant de ce pays ou vu l'un de ses représentants à la télévision, peut-être même qu'un de vos proches s'y est installé récemment. Parce qu'après la pandémie et à l'approche de la présidentielle, la population de l'Absurdie grossit à vue d'œil. Alors, on a eu envie à La Loupe de vous fournir une trousse à outils pour survivre dans cette contrée où l'irrationalité règne. Dans cet épisode, vous allez apprendre à maîtriser la zététique ou encore l'heuristique de disponibilité. Pas de panique, on vous explique tout rationnellement. Voici votre kit de survie en Absurdie. Pour explorer un pays, on commence généralement par consulter un guide. Et ça tombe bien, il y a un livre qui vient de sortir, idéal pour maîtriser l'absurdie. Il s'intitule « Rationalité » et il a été écrit par Steven Pinker, l'un des penseurs les plus influents de la planète, professeur à Harvard, spécialiste des sciences cognitives. Ses ouvrages sont des best-sellers. Et avant de décortiquer nos irrationalités, Steven Pinker fait une mise au point à l'heure où nous avons l'impression de vivre dans un monde où les humains sont de plus en plus fous.
We have to. Is there enough gasoline in the car to get me to work? Do the children, have they had breakfast? What time do they have to get to school? You have no choice. You really have to follow reality to be a functioning person.
Pour être un humain qui fonctionne, on n'a pas le choix. Il faut suivre la réalité. Il faut s'assurer qu'il y a assez d'essence dans la voiture, que les enfants ont eu leur petit-déj, à quelle heure ils vont à l'école, etc. À l'Express, on a publié une grande interview de Steven Pinker et c'est Thomas Malheur, directeur adjoint de la rédaction, qui a eu la chance de la réaliser. Salut Thomas.
Salut Xavier.
Ce que nous dit Steven Pinker, c'est que malgré les apparences, l'humanité n'est pas en train de devenir folle.
Steven Pinker fait une distinction importante entre la pensée réelle et la pensée mythologique. Dans la vie quotidienne, en fait, la plupart d'entre nous sommes très rationnels. Le problème, c'est que dès qu'on s'aventure sur des sujets qui dépassent notre expérience immédiate, c'est là où on devient vraiment irrationnel. Par exemple, les adeptes du théorie du complot, ils vont jamais au bout de leur logique. Si on est vraiment, par exemple, persuadé que Big Pharma est si puissant qu'ils ont réussi à mettre des puces dans les vaccins, on va plus chez le médecin, on fuit les pharmacies, mais au moindre pépin de santé sérieux, la plupart des anti-vax vont aller soigner comme tout le monde. D'ailleurs, Steven Pinker nous met en garde contre l'idée qu'on serait tous devenus fous ou que nous vivrions dans une époque de post-vérité, comme on l'entend souvent. Déjà, les croyances irrationnelles, en fait, c'est aussi vieux que le monde, aussi vieux que l'humanité. Si on prend par exemple les miracles dans la Bible, d'un point de vue rationnel, qu'est-ce que c'est? C'est juste des phénomènes paranormaux qui se sont répandus grâce à des fake news. Pendant très longtemps, la médecine, c'était du charlatanisme, c'était rien d'autre. Avant l'essor de la médecine moderne, sur le temps long, en fait, Steven Pinker explique bien que l'humanité devient quand même, c'est rassurant, de plus en plus rationnelle. Peu de gens croient aujourd'hui au sacrifice d'animaux, aux loups-garous, aux saignées, à la théorie des miasmes. Et qui sait, peut-être dans quelques années, les puces dans les vaccins, QAnon, l'homéopathie ou les horoscopes ne seront plus qu'un lointain souvenir.
Donc voilà pour le préambule. On va passer aux travaux pratiques. Dans son essai, Steven Pinker donne des clés pour que chacun d'entre nous arrive à rester rationnel.
It's important that we be aware of our own fallacies so that we can try to avoid them, that we don't get distracted, for example, by the availability bias.
Il faut être conscient de nos propres erreurs de raisonnement pour les éviter, nous explique Steven Pinker. Il parle de ce qu'on appelle les biais cognitifs, ce sont ces filtres qui altèrent notre jugement. Les connaître, c'est commencer à les combattre. Alors on va passer en revue ceux qui nous semblent les plus importants. Pinker cite par exemple le biais de disponibilité ou heuristique de disponibilité. On a promis Thomas qu'on allait l'expliquer, alors de quoi s'agit-il ?
Alors oui, ça fait un langage très savant, c'est très chic, mais en fait c'est un concept très simple. Ce sont deux grands psychologues, Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui ont fait cette découverte majeure. En fait, cela signifie que nous évaluons les probabilités des événements non pas de manière rationnelle, mais en fonction de la facilité avec laquelle les exemples nous viennent à l'esprit. Alors typiquement, l'exemple le plus célèbre, c'est les voitures et l'avion. On est persuadé que la voiture est plus sûre que l'avion, parce qu'on a tous en tête en fait des images terribles de crash qui sont diffusées dans les médias, qui font la une des journaux, l'ouverture de 20h. Et en fait, en réalité, les avions sont 1000 fois plus sûrs que les voitures. Mais le biais de disponibilité peut aussi avoir des conséquences politiques. Beaucoup, par exemple, ignorent que l'énergie nucléaire, statistiquement, est une des énergies les plus sûres. Les accidents miniers, les ruptures de barrages hydroélectriques, les explosions de gaz naturel, en fait, ont fait bien plus de morts que le nucléaire. Mais les trois grands accidents nucléaires dans l'histoire, c'est Three Mile Island en 79, Tchernobyl en 86 et Fukushima évidemment en 2011. Ces accidents étaient très médiatisés, alors que la fumée, par exemple, de la combustion du charbon, ça tue 500 000 de personnes par an, mais en fait, on n'en parle pas.
Mais une fois qu'on est conscient de ce biais-là, comment on peut lutter contre ces effets ?
Alors, on sait que les médias adorent traiter les catastrophes, les faits divers horribles. Évidemment, ça fait plus d'audience que le train qui arrive à l'heure. Mais on peut les encourager à remettre en perspective ces drames en rappelant, par exemple, les statistiques et la fréquence de ces événements. Typiquement, après une attaque de requin, pour pas créer la panique sur les plages, il faudrait souligner à quel point c'est rare et que les noyades sont bien plus fréquentes que ces attaques. Pinker rappelle que les gens adorent lire les statistiques dans les rubriques de sport ou en économie, et donc ils se demandent pourquoi on n'en met pas plus aussi ailleurs.
One of the most pervasive fallacies is a inability to really grasp chance, randomness. The gambler's fallacy is an example of that.
Le sophisme du joueur, voilà un autre biais qui nous empêche souvent de penser rationnellement. Thomas, comme un joueur de roulette au casino.
Alors en fait, tous les humains, on a du mal à saisir si des phénomènes sont liés ou totalement indépendants. Donc typiquement, à la roulette au casino, si on tombe 6 fois sur le rouge, on va se dire que le prochain tour, forcément, c'est du noir.
If the roulette wheel lands on red 6 times in a row, people think it's due for a black and they're more likely to put money on black.
Alors qu'en fait, un tour de roulette n'a aucune incidence sur le suivant, c'est totalement aléatoire. De la même façon, en fait, on va tendance, nous les humains, à avoir des séries a posteriori dans des phénomènes qui sont totalement aléatoires et sans aucun lien, ce qui alimente souvent les superstitions.
We don't have a good sense of what a coincidence looks like.
Alors il suffit que, par exemple, qu'il arrive 3 malheurs ou 3 catastrophes dans une année et on est persuadé que c'est une année maudite ou que Dieu cherche à nous punir pour des péchés.
So people might think the apocalypse is coming, we are being punished for our sins. Bad things happen in threes.
La reine d'Angleterre a popularisé le terme Annus Horribilis dans un célèbre discours en 92, parce qu'en fait, la famille royale avait connu une série de déboires.
Sometimes bad things will all happen at once.
Sa fille, la princesse Anne, avait divorcé de son premier mari. Son fils s'était officiellement séparé de Sarah Ferguson. Un livre avait révélé les déboires conjugaux entre Charles et Diana. Le château de Windsor avait pris feu.
Not for any reason, but just because when things are at random, they will tend to fall into what our eyes see as clusters.
Évidemment, en fait, ces événements n'ont aucun lien les uns et les autres. C'est une grande partie du hasard.
Ne pas prendre des hasards pour des lois scientifiques. Parmi les erreurs de raisonnement que nous pouvons faire aussi très souvent, il y a la confusion entre causalité et corrélation. Et pour comprendre, Steven Pinker donne un exemple assez frappant.
The example that I use to start off the chapter is the dictator for life of Turkmenistan, Niyazov.
Alors j'adore cet exemple, parce que Niyazov, en fait, ça a été le président à vie du Turkménistan entre 1985 et 2006, et c'était l'un des pires dictateurs de la planète. Et donc il a recommandé à son peuple très sérieusement de ronger des os pour avoir de plus belles dents.
They should all chew bones to have stronger teeth.
Tout ça parce que quand il était petit, il avait vu des chiots ronger des os et que ceux-ci avaient des belles dents. Et donc il a établi ce qu'on appelle un lien de causalité.
Dogs chew bones, dogs have good teeth, therefore chewing bones makes your teeth strong.
Alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse, c'est parce qu'on a des dents solides qu'on peut ronger des os. C'est pas les os qui font du bien aux dents.
The causation is reverse, not chewing bones makes your teeth strong, but having strong teeth allows you to chew bones.
Alors, cette confusion entre causalité et corrélation est très courante, on se trompe souvent dessus. Pendant des années, par exemple, on a pensé que le café était responsable de maladies cardiaques, parce qu'il y avait plus de crises cardiaques chez les buveurs de café. Mais en fait, il se trouve que les adeptes de la caféine ont également tendance à fumer et à faire moins de sport. Donc en fait, le lien entre café et problèmes cardiaques, c'était une simple corrélation, mais pas un lien de causalité.
On pourrait citer de nombreux autres biais, mais je voudrais qu'on en aborde un dernier, Thomas, parce que c'est un peu le mal du siècle, c'est ce qu'on appelle le biais de partialité.
Alors c'est le chercheur Dan Kahan qui a montré toute l'importance de ce biais de partialité. Des chercheurs avaient montré que les supporters de foot, ils voient davantage les fautes commises par l'équipe adverse que celles commises par l'équipe qu'ils soutiennent.
I think people don't care whether they are literally true or false.
Et donc de la même façon, en fait, les humains, on est totalement biaisés politiquement. On va soutenir notre équipe politiquement et on va tout faire pour dénigrer l'autre. Par exemple, Kahan a fait une expérience très amusante. Il a montré une vidéo d'une manifestation devant un bâtiment à des conservateurs et à des libéraux. Et en fait, quand il leur disait que cette manifestation, c'était contre l'avortement, les conservateurs, ils estimaient que c'était un rassemblement pacifique, alors que les libéraux, eux, trouvaient que la foule était très violente. Mais à l'inverse, quand il leur a dit que c'était une manifestation pour les droits des homosexuels, ce sont les conservateurs qui ont trouvé que les manifestants étaient violents, alors que les libéraux, eux, pensaient que c'était très pacifique.
They are expressions of their values, of the political and religious and moral.
Donc en fait, on raisonne à la fois pour mettre en valeur notre tribu idéologique ou politique, et on fait tout pour diaboliser le camp adverse, mais on utilise aussi notre raisonnement pour être perçu comme des bons soldats à l'intérieur de notre camp. En fait, on donne des gages de loyauté à notre équipe.
A coalition that they belong to, their clique, their tribe.
Et encore une fois, comment on fait pour lutter contre ce biais-là ?
Le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société de plus en plus polarisée idéologiquement. Avant, on regardait tous le même 20h à la télé. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, avec la multiplication des médias, en fait, on ne peut plus recevoir que des informations qui vont dans notre sens d'un point de vue politique. Même géographiquement, en fait, on vit de plus en plus à côté de personnes qui pensent la même chose que nous. Par exemple, les gens de la gauche éduquée vont se concentrer dans les métropoles, ce qu'on appelle les bobos, alors que l'extrême droite va bien plus séduire dans la France périphérique. Et donc face à ça, face à ce phénomène, on peut essayer d'être plus ouvert d'esprit, de se confronter à d'autres points de vue, de sortir de sa bulle. En tout cas, il a été démontré que les personnes qui sont plus ouvertes aux données nouvelles, qui sont capables de changer d'avis, qui prennent aussi plus de temps pour la réflexion, en fait, ces personnes-là, elles sont moins tentées par des croyances irrationnelles comme les théories du complot, et elles savent aussi repérer plus facilement les fake news ou le bullshit.
Donc se confronter à l'autre, s'ouvrir à d'autres points de vue, dialoguer, oui, mais comment faire avec des gens persuadés de choses qui peuvent nous paraître ou vous paraître délirantes ? On va vous initier à une discipline dont le nom commence par un Z.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Richard, mon voisin. Vous enseignez à l'université de Grenoble-Alpes. Vous pouvez nous expliquer votre matière, la zététique ?
La zététique, c'est l'investigation scientifique des théories controversées, des éléments surnaturels que parfois on peut invoquer pour expliquer certaines choses, des théories paranormales ou relevant de l'étrange.
Mais ça marche comment exactement ?
J'étudie si les croyances qui sont présentées ont un corpus de scientificité, est-ce qu'elles sont valides, est-ce qu'elles ont des preuves. Ensuite, je vulgarise ces recherches et puis j'enseigne les conclusions aux étudiants et aux étudiantes que j'ai en vue de leur enseigner des outils d'autodéfense intellectuelle pour qu'ils puissent douter avec méthode.
Vous pouvez définir l'autodéfense intellectuelle ?
L'outillage d'autodéfense intellectuelle consiste à douter des informations qui nous sont délivrées, mais de manière méthodique, rationnelle, en demandant des preuves, en évaluant ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui a une tendance à être vraisemblable ou pas. Et on peut se faire piéger de plein de façons différentes. Le tout, c'est de connaître un maximum de ces outils-là quand on est confronté à une nouvelle information ou à une croyance qui nous est présentée comme vraie.
Vous allez nous aider à utiliser ces outils, à douter de manière méthodique. Est-ce qu'on peut tous pratiquer la zététique dans notre vie quotidienne ?
Ouais, c'est un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose. Il y a pas mal de gens qui font de la zététique sans même s'en rendre compte. Mais en gros, c'est de demander à l'interlocuteur qui vous raconte quelque chose ou qui vous présente quelque chose comme fondé, de vous fournir de bonnes raison de penser ce qu'il pense, et soit il vous donne des infos suffisantes. Et dans ce cas-là, vous concluez dans le même sens que lui, soit les faits sont pas suffisants, et dans ce cas-là, vous pouvez soit suspendre votre jugement en attente de plus d'informations, soit renoncer à le croire sur parole.
Mais on a l'impression souvent que c'est stérile de débattre avec quelqu'un qui croit des choses irrationnelles. Est-ce qu'il y a une manière de faire qui est efficace ?
Ah ouais, le comportement, c'est essentiel. Souvent, quand on vient avec l'outillage scientifique, on est perçu comme surplombant ou arrogant, et puis certains interlocuteurs jouent beaucoup là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un conseil que j'emprunte à l'astronome Phil Plait, qui est « ne soyons pas des connards ». Par exemple, quand on est face à quelqu'un qui développe une croyance, prenons le temps de voir ce que ça représente pour lui ou pour elle avant d'aborder le sujet. Parce que ça peut valoir la peine parfois de se taire, ça peut parfois valoir la peine de reporter la discussion s'il y a un contexte où beaucoup de gens sont autour de vous, ou si la personne n'est pas spécialement ouverte à ça. Je connais pas de cas de gens qui ont changé d'avis juste parce qu'on les a toisés ou pris de haut. Donc douceur et tendresse, j'ai envie de dire.
Douceur et tendresse, dans les outils que vous enseignez, il y a aussi quelque chose qu'on appelle le critère de Popper. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Ben, quand une théorie est proposée, elle est censée pouvoir donner des éléments qui, si s'avéraient vrais, feraient qu'on renoncerait à la théorie, ou qu'en tout cas, on serait obligé de la réaménager. Donc, si vous défendez, je sais pas, la théorie de la gravitation, vous savez que dans la gravitation, si un jour on trouve un objet lourd et qu'on lâche et qu'il ne tombe pas dans un champ gravitationnel, alors il faudra changer de théorie parce qu'elle est prise en défaut. Le problème de beaucoup de théories, entre guillemets, de type complotiste, c'est qu'elles contiennent leur propre réfutation et donc elles ne permettent pas, en fait, de les contredire. Quand vous dites, je sais pas moi, il y a un complot sur tel sujet, si vous dites, ah, mais j'ai des éléments qui vont à l'encontre de cela, on vous dit, oui, mais ces éléments-là sont orchestrés par, et généralement par le complot en question. Et donc, en fait, ça fait des théories qui sont auto-immunisées contre la critique. Une fois qu'on est dans un scénario comme ça, qui est complètement forclos, c'est très difficile de s'en sortir. Donc, s'il n'y a pas de critère de Popper, en fait, on peut presque être assuré qu'on n'est pas dans une théorisation rationnelle.
En vous écoutant, on commence à être armé pour pratiquer la zététique. Est-ce qu'il y a aussi des écueils à éviter ?
Quand on commence à pénétrer ce monde-là de la zététique, on a l'impression que en deux coups de cuillère à peau, en apprenant quatre biais de raisonnement, on a réussi à faire le tour et on est désormais immunisé contre toutes les erreurs. Moi, ça fait 20 ans que je patauge dans ce milieu-là et il m'arrive encore moi-même de me fourvoyer dans des conclusions que je donne. Mais après, ce qui est bien, c'est que le processus, il est autocorrectif. Donc, méfiance pour ceux qui pourraient avoir l'impression d'être zététiciens à toute heure du jour, de la nuit, sur tous les sujets. Et en plus, notre incompétence est notoire sur la majorité des sujets. On devient expert que d'un petit sujet ou deux. Le tout, c'est d'avoir un réseau d'informations qui nous permet de se tourner vers les gens les plus compétents sur chaque domaine. Encore faut-il savoir où ils sont, comment les contacter, où les lire. Et le problème, c'est que nos recherches généralement se cantonnent à trois surfs sur Google, mais surfer sur Google, c'est comme aller dans l'Amazonie sans boussole et sans carte, si vous voulez, c'est impossible de s'y retrouver.
Vous enseignez et vous pratiquez la zététique depuis longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis la pandémie, les théories du complot, les croyances dans les pseudosciences, etc., ont gagné du terrain ?
Est-ce qu'elles ont gagné du terrain ? Je dirais que en quantité, c'est pas si clair. Si vous voulez, les théories du complot, généralement, ça prend corps sur des incertitudes. Et c'est vrai que pendant la crise du Covid, les incertitudes étaient tellement grandes que c'est logique que des solutions simples puissent venir nous convaincre assez rapidement. Et puis, il y a une sorte de colère qui est derrière, que l'on oublie assez souvent, colère vis-à-vis des industries pharmaceutiques, du comportement de la communication de l'État, des spéculations sur le prix des vaccins, qui justifient que les gens soient en colère. Le problème, c'est quand ils sont en colère ou quand ils sont dans l'incertitude, notre cerveau, il a une fâcheuse tendance à se tourner vers des solutions simples pour expliquer ce qui se passe et généralement à rejeter en bloc le monde de la science ou de la connaissance. Et donc, si la colère est justifiée, en général, c'est les conclusions que je trouve plus embêtantes. Et c'est vrai que pendant la crise du Covid, là, on a vu beaucoup, beaucoup de gens, au nom du refus de ces enjeux de type pharmaceutique, quitter complètement la sphère rationnelle, je dirais, pour se tourner vers des thérapies étranges, développer des idées complètement biscornues ou sans preuve, surtout dans le domaine du soin. Et l'enfermement dans les bulles cognitives liées aux réseaux sociaux a aggravé encore le phénomène. C'est, à mon avis, c'est l'enjeu des prochaines années d'essayer de comprendre comment sortir de ces bulles cognitives que les réseaux sociaux nous créent.
Pour terminer, Richard Monvoisin, est-ce que vous avez un dernier conseil en zététique pour nos auditeurs ?
Un exemple. Là, je parle en tant qu'expert. Je trouve que tout expert devrait être sujet aux mêmes lois que celles des professionnels de santé qui, quand ils s'expriment en public, doivent donner leur lien d'intérêt. Un lien d'intérêt, ça ne veut pas dire que c'est grave, hein. Ça veut dire que vous recevez peut-être une source de financement extérieure. Le tout, c'est que ça ne crée pas un conflit d'intérêt. Donc moi, ce que je fais généralement, et je vais le faire là, je donne mes liens d'intérêt de façon à ce que on puisse avoir un regard critique, éventuellement, si je suis financé, mettons, par Sanofi Saint-Elabo ou par Total ou par l'Express, que je le déclare, comme ça, on pourra faire le petit décalage et se dire, tiens, il y a peut-être une part de subjectivité dans ce qu'il est en train de dire, ou est-ce que ce qu'il est en train de dire n'est pas en train de complaire à son financeur. Moi, c'est facile, mon seul financeur, c'est l'État, au travers de mon salaire, quoi. Et j'ai jamais reçu de pression sur quoi que ce soit venant de l'État concernant mes productions ou mes cours.
Je confirme que vous n'êtes pas financé par l'Express pour ce podcast. Merci beaucoup Richard Monvoisin. Je rappelle que vous êtes docteur en didactique des sciences en charge d'un cours sur la zététique à l'université Grenoble-Alpes. Et grâce à vous, on va donc pratiquer une meilleure hygiène du jugement.
Tant mieux.
Si vous avez trouvé utile ce kit de survie en absurdie, n'hésitez pas à le partager, conseillez-le autour de vous. Et pour ne rater aucun autre épisode de La Loupe, abonnez-vous sur vos plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Castbox. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.